Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette émission Point de Mire Mireille Pastoureau, directeur et conservateur de la bibliothèque de l'Institut de France. Et nous avons l'intention de vous parler des épées d'académiciens. Vous savez que actuellement, la majorité des académiciens portent avec leur tenue, leur célèbre habit vert. Ils portent une épée. Mireille Pastoureau, est-ce qu'il en a toujours été ainsi dans l'histoire du costume académicien ?
Eh bien, non. À l'origine, les académiciens n'avaient même pas de costume en 1795, lors de la fondation de l'Institut. Et ce costume est devenu nécessaire pour les distinguer dans les réunions officielles, parce qu'ils avaient du mal quelquefois à rejoindre leur place. On ne remarquait pas assez leur importance. Donc, on les a distingués tout d'abord par un costume vers 1800-1801 à peu près. Mais ce costume n'avait pas d'épée. Et l'épée n'est venue que par la suite. Tout d'abord, en raison du souhait de Napoléon de voir les personnes qui fréquentaient sa cour une fois qu'il a été empereur. Il souhaitait que toutes les personnes portent une épée, ce qui rappelait les habitudes d'Ancien Régime, qui voulait, vous le savez, que seuls les nobles fussent autorisés à porter une épée. Donc l'épée est devenue de règle lorsqu'on allait à la cour, même si on n'en possédait pas une, il fallait se munir d'une épée. Et les académiciens ont donc été conduits à porter l'épée à la cour de Napoléon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce port de l'épée par des académiciens avait un précédent, c'était l'épée de l'Institut d'Égypte. Vous savez que Bonaparte, de 1798 à 1801, a réalisé l'expédition d'Égypte et qu'il a emmené avec lui un groupe de savants et qu'il a fondé au Caire, il a fondé l'Institut d'Égypte. Et ces savants ont eu un uniforme et une épée. Et alors, ces épées sont encore conservées. Certains académiciens actuels, Monsieur Rosenberg de l'Académie française, ancien directeur du Louvre, président directeur du Louvre, possède une très belle épée de l'Institut d'Égypte. Donc, cette épée de l'Institut d'Égypte, des membres de l'Institut d'Égypte, est en quelque sorte l'ancêtre des épées d'académiciens.
En avez-vous gardé quelques-unes à la bibliothèque,
oui,
de l'Institut ?
Nous avons la chance d'en posséder une à la bibliothèque de l'Institut. Mais elles n'étaient pas toutes dans les mêmes matériaux. Celles que nous possédons est une épée ordinaire, je dirais, de l'Institut d'Égypte. C'est une épée, la garde est en nacre avec une figure de déesse égyptienne, et d'autres étaient en argent ou en vermeil. Et celle de Napoléon est, je crois, conservée à la Malmaison. Son épée, puisqu'il était membre de l'Institut d'Égypte, son épée a été conservée et se trouve à la Malmaison.
Et membre aussi, je crois, à cause de cette expédition scientifique en Égypte, membre de l'Académie des sciences.
Exactement, parfaitement.
Alors, une fois que les académiciens portaient donc l'épée à la cour de Napoléon et qu'on a parlé de cette première épée donc portée par l'Institut d'Égypte, les académiciens ont pris l'habitude de porter l'épée.
Voilà. Et il faut savoir qu'à cette époque, tous les hauts fonctionnaires, tous les dignitaires civils portaient un uniforme et une épée au XIXe siècle. Donc l'épée des membres de l'Institut au XIXe siècle n'était pas différente de celle des autres hauts fonctionnaires.
C'était d'une épée type.
Voilà, à quelques différences près, sa caractéristique était d'avoir une fusée en nacre et des motifs floraux, en général le laurier. Et donc c'est un type d'épée qui s'est bien développé sous le Napoléon III et la Troisième République. C'était des épées assez courante, qui était livrée avec le costume et qui ne présente pas une grande originalité.
Alors, passent les années, Mireille Pastoureau, et à partir de quand se décide-t-on à ne plus porter l'épée?
Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on va continuer à porter l'épée, mais l'épée va devenir personnalisée. Elle va devenir un objet unique, si je puis dire. Alors, il y a un premier cas qui est assez atypique, qui est très tôt dans le 19e siècle. C'est l'épée du peintre Horace Vernet, qui fut élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1826. Alors, nous possédons son épée à la bibliothèque et nous la possédons possédons grâce à un autre académicien des Beaux-Arts, beaucoup plus proche de nous, qui était Louis Hautecoeur, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts de 1955 à 64, et qui a reçu comme épée d'académicien l'épée d'Horace Vernet. Donc cette épée d'Horace Vernet date de 1826 et elle est à ce jour la plus ancienne épée d'académicien personnalisée. Elle porte sur la garde, qui est en bronze doré, elle porte gravée une palette et des pinceaux avec les initiales HV, les divers attributs. Voilà, on comprend. Et un profil d'homme fumant la pipe. Alors, je ne sais pas si Horace Vernet fumait la pipe. Il s'agit probablement de son profil. Donc, c'est un objet tout à fait intéressant parce qu'à la même époque, comme je vous l'ai dit, les épées étaient un peu toutes du même modèle. Le grand changement dans la conception des épées d'académiciens est venu autour de 1890-1900. C'est une époque où on voit les épées devenir personnalisées, les épées être créées par des artistes, des joailliers, des orfèvres, être offertes à l'académicien par un groupe de disciples, d'amis, d'élèves qui font une souscription pour offrir un très bel objet conçu spécialement pour l'élection de l'académicien à l'académie.
L'épée cadeau, hommage et symbole d'amitié.
Exactement. Voilà. Donc, on a un très bel exemple avec l'épée du duc d'Aumale en 1888, épée qui est conservée toujours au château de Chantilly, qui fut dessinée par l'architecte Honoré Daumé, qui avait été chargé de la reconstruction du château de Chantilly. Donc, c'est une œuvre d'art, c'est une épée bijou. Et également, ensuite, on voit des orfèvres, des artistes, notamment la famille des Falises, le joaillier Lucien Falise, en 1897, commence à dessiner une épée pour un de ses amis qui est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et après lui, la maison Falise a réalisé une centaine d'épées d'académiciens qui sont de nos jours collectionnées. Vous savez qu'il y a à l'Institut, à l'Académie des Sciences Morales, maître le bâtonnier André Damien qui collectionne les épées d'académiciens et qui a notamment l'épée de Marcel Prévost qui a été réalisée par Falise.
Alors justement, pour expliquer cette transition que vous soulignez entre la période où l'épée était quasiment imposée en forme unique par un uniforme et le moment où elle devient un objet très personnel, il y a un petit texte que je voudrais lire et qui dit, c'est un texte de Lavedan, il est daté de 1910 et il dit, il arrive encore, j'ai honte de le dire, que cette épée prise au hasard parmi des articles de fabrication courante soit acquise à l'avance pour la misérable somme d'une cinquantaine de francs par le tailleur qui la livre avec le reste. Aussi, nous détournerons-nous vite, messieurs, de cet indigne ustensile n'ayant heureusement rien à voir avec l'objet d'art et de prix qui bat de nos jours la jambe gauche de presque tous mes confrères. Par une touchante et généreuse coutume, en effet, qui tend à s'établir, notre épée obligatoire est devenue gratuite, qu'elle soit offerte par les nombreux amis et admirateurs, par un groupe de lectrices fidèles, par une société, un comité de rédaction, la ville natale, la famille, ou simplement par une épouse chérie. Au lieu d'une camelote, elle est alors le fruit des veilles et de l'imagination de nos plus grands orfèvres qui se préoccupent, à défaut d'une arme meurtrière, d'en faire une arme symbolique et parlante dont les moindres parties offrent une signification et rappellent un des titres de leur éminent professeur. Rien de ce qu'a, pendant plus d'un quart de siècle, écrit le maître, n'est oublié. Tout hommage est traduit en devinette et la portée morale ou philosophique se révèle en ingénieuse allégorie dans l'or ou l'argent de la poignée. La garde est un rébus flatteur, la sous-garde une charade, la branche un acrostiche, le quillon un trait d'esprit, la fusée exprime le départ, les débuts brillants, l'ascension rapide et le pommeau, ferme comme une tête à cervelle, présente le chef-d'œuvre de la maturité, généralement personnifié par une femme en casque. Est-ce tout ? Non, la chape, l'anneau de porte-épée et son bouton, la bouterolle, sont encore là pour servir au rappel d'une fantaisie, d'un péché de jeunesse. Et si l'historien, le dramaturge ou le critique ont été tellement fertiles que la place manque, l'inventaire de leur production, alors on y va de l'acier dans la rigole, duquel se grave la liste des longs succès, de telle sorte que l'heureux auteur, à la façon de Bias, peut, sous un mince volume, porter avec lui tous les siens et promener à son côté les centièmes de son théâtre complet, affiché sur une lame légère qui n'use rien, même pas le fourreau.
Oui, donc on voit là tout le vocabulaire technique de l'épée. Et ce qui est amusant, c'est que cette tradition d'inscrire les œuvres de l'académicien a perduré, puisque la bibliothèque vient de recevoir, il y a 2 jours, le don de l'épée de Louis Powels, décédé en 1997. Louis Powels était membre de l'Académie des Beaux-Arts, et sa veuve vient de faire don de son épée, réalisée en 1985, par Pierre-Yves Trémois, qui est le graveur que l'on connaît, célèbre, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et sur la lame de l'épée de Louis Powels sont gravés les titres de ses œuvres, de ses ouvrages.
Il y a donc des personnes qui font don de ces épées à la bibliothèque de l'Institut.
Voilà, les épées sont des objets de musée. Beaucoup de familles les gardent, mais certains musées les conservent aussi. Et notre bibliothèque est un peu le musée de l'Institut également. Elle conserve la mémoire des académiciens. Et certaines familles, certaines personnes nous donnent effectivement des épées. Nous avons reçu il y a quelques années, c'est l'Académie des Beaux-Arts aussi qui a reçu. Et vous savez, nous sommes la bibliothèque de l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts a reçu l'épée du peintre Roger Vieillard, qui avait été élu en 1989, qui malheureusement est décédé peu de temps après, mais avait eu le temps de dessiner lui-même son épée, donc qui est très intéressante parce qu'elle est tout à fait dans le style de ses gravures. C'était un graveur abstrait, et donc c'est une épée très originale que nous conservons, et nous en avons 16, et nous avons également des maquettes d'épées, des projets d'épées. Nous avons pu acheter récemment en vente publique une quinzaine d'épées provenant d'un artiste lyonnais qui était Louis Muller, qui est décédé dans les années 50, mais sa veuve avait conservé l'atelier, et maintenant, à la disparition de sa veuve, le fonds d'atelier a été vendu. Nous avons donc toute une série de maquettes en plâtre d'épées d'académiciens. Donc c'est assez intéressant de voir ce que l'artiste proposait à l'académicien avant de réaliser véritablement l'objet. Et nous avons également 2 autres maquettes qui sont celles des épées d'Alain Perfitte et d'Olivier Lacombe. Alain Perfitte, que l'on connaît, membre de l'Académie française. Olivier Lacombe, spécialiste de l'Inde, indianiste, de la philosophie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et c'est un artiste de Provins, Raymond Chudin, qui a réalisé ces 2 épées. Et nous avons les maquettes en bois et plâtre, qui sont déjà rehaussées d'or. Et d'après ces maquettes, on se rend très bien compte de ce que l'objet a pu être ensuite.
Alors Mireille Passereau, est-ce que tous les académiciens portent avec plaisir l'épée, ou est-ce que certains sont pour le moins surpris, si ce n'est réticents?
Voilà, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il semble que depuis les guerres que le XXe siècle a connues, effectivement, il y ait une certaine réticence à l'égard des épées. Il y a des académiciens antimilitaristes, et je peux citer cette phrase de Michel Serres, qui a déclaré dans son discours: pour n'avoir vécu depuis l'âge fragile que dans la violence, guerrière ou intellectuelle, j'ai donc longtemps rêvé de ne jamais porter l'épée.
Néanmoins, il la porte.
Il porte une épée d'homme de science. Il porte l'épée portée par 4 générations de Becquerel, membres de l'Académie des sciences, tous polytechniciens et physiciens.
Une épée qui n'a sans doute jamais servi comme arme, on s'en doute. Alors dans les gens un peu hésitants aussi et qui en tirent quelque humour, il y a Daniel Rops de l'Académie française.
Exactement, qui a déclaré dans son discours: me battre en duel ne serait guère dans mon tempérament. De plus, je l'ai fait forger rue de la paix.
Oui, voilà. Évidemment. Rue de la Paix où se trouve certains grands joailliers. Et le président Édouard Herriot.
Et le président Édouard Herriot a déclaré en 1947 « C'est la première fois de ma vie que je porte une épée et je n'ai jamais eu aussi peur.
» Alors les femmes de l'académie, des académies, portent-elles l'épée ?
Alors, les femmes, c'est une longue histoire, dirais-je. On peut penser qu'une des raisons tardives, de l'entrée tardive des femmes à l'Institut, tient à ce que l'on estimait que le bicorne et l'épée ne s'harmonisaient guère avec la grâce féminine. Et Louis Armand, qui est décédé en 1971, disait que c'était leur contexture qui empêchait les femmes d'entrer à l'Académie française. Rares, disait-il, sont les femmes assez sveltes, assez viriles, pour porter une épée sans déformer les hanches.
Bien, voilà un argument qui est imparable.
Voilà. Et alors, malgré cela, des femmes candidates à l'académie proposaient des alternatives. Et Colette disait « Que ferais-je d'une épée ? Je veux un sabre d'abordage avec deux pistolets à la ceinture. »
Bon.
Et Hélène Vacaresco disait « Il serait facile de mettre à la mode la petite épée. » Et Françoise Malé-Joris, en 1978, disait « Un très joli costume a même été dessiné à l'intention des femmes, un tricorne et une lyre en guise d'épée. »
Voilà, mais alors, il y a tout de même des femmes académiciens qui portent l'épée, puisque Madame Carrère-Dancausse en porte une.
Exactement, et Madame Carrère-Dancausse est la première académicienne à porter une épée. C'est pas la première femme à entrer à l'Institut, il y en a eu avec elle, avant elle. On sait que Marguerite Yourcenar, en 1980, fut élue à l'Académie française, mais elle portait une tenue que lui a créée Yves Saint-Laurent et qui n'avait rien à voir avec l'uniforme. C'était un ensemble de velours noir rehaussé d'un châle de soie blanche et que c'était même dire l'antithèse, l'opposé d'un costume d'uniforme. Voilà. Et d'autres femmes dans les académies ont été élues également. Madame de Romilly à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1975, par exemple. Ces femmes-là ont adopté un costume brodé, ont porté la veste brodée avec une jupe, mais ne portaient pas d'épée. Or, Madame Carrère-Dancausse est allée à assumer totalement la tradition et son épée est une création de l'orfèvre Gucci en 1991. C'est une véritable épée et elle porte un nom comme toutes les épées de Gucci. Elle a été baptisée Joyeuse comme l'épée de Charlemagne et elle porte la devise « Heureux les pacifiques ».
Donc, il y a les deux côtés, en effet, armes de guerre et,
voilà.
Et armes...
Et alors, il y a eu à l'Institut une véritable escrimeuse. C'était Madame Saunier Saïté, ancien ministre des universités. Et en 1996, elle a reçu son épée des mains de son maître d'armes. Et j'ai assisté à cette remise d'épée. C'était très spectaculaire parce que nous avons eu vraiment un petit moment d'escrime devant nous.
Au moins, elle savait s'en servir. Mireille Passoureau, si l'on ne porte pas d'épée... Que porte-t-on ?
Alors, on peut donc porter une épée neuve, mais il y a une habitude qui s'est développée pendant ces dernières années, qui montre du reste combien notre société s'intéresse à son passé. Il s'agit de l'usage de porter une épée ancienne. Beaucoup d'académiciens ne souhaitent pas avoir une épée neuve portant les symboles de leur carrière, mais par goût pour l'histoire, par respect pour le passé, sont heureux de recevoir une épée ancienne. C'est ainsi que Pierre Nora de l'Académie française a reçu une épée Louis XVI en vermeil, que Bertrand Poirot Delpech, également de l'Académie française, a adopté l'épée de son arrière-grand-père, qui était membre de l'Académie de médecine, avec laquelle enfant il jouait à D'Artagnan. Que René Raymond, de l'Académie française également, a reçu l'épée du prince de Joinville, le fils de Louis-Philippe. Jean-Marie Roire a l'épée d'un officier de santé. Et Pierre-Yves Trémois, de l'Académie des beaux-arts, qui est un grand artiste, a une épée du XVe siècle, qui est une épée de samouraï.
Voilà, et récemment, M. Denois de Saint-Marc, lui, porte une épée qui est une épée de sa famille, alors qui est une épée qui a plusieurs siècles, mais qui appartient à sa famille, portée par ses ancêtres, donc.
Très bien, donc voilà encore un cas que je n'avais pas noté, que je ne connaissais pas. Claude Lévi-Strauss France, qui aime beaucoup les objets anciens, une épée du XVIIIe siècle, et il a déclaré « J'aime les beaux objets et j'ai demandé une vraie arme. Elle est superbe, date du XVIIIe siècle. J'espère qu'elle a servi. »
Alors, ceux qui n'en ont pas...
Voilà. Alors maintenant, que nous sommes au XXIe siècle, nous arrivons encore alors à une nouvelle étape et on remarque que certains académiciens qui ne sont ni femmes ni ecclésiastiques ne veulent pas d'épée du tout. Par exemple, Monsieur Leroy Ladurie, Emmanuel Leroy Ladurie, lorsqu'il a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques, a demandé un livre ancien qu'il a aussitôt donné à la Bibliothèque nationale, dont il avait été administrateur général. Et certaines femmes, j'ai dit ne portez pas l'épée, mais ont choisi un bijou à la place. Par exemple, Madame Claude Dulon-Saint-Denis, qui a parlé à votre antenne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a une broche médaillon à la place d'une épée.
Qui a été faite spécifiquement tout de même.
Exactement,
pour
cette
occasion.
Qui lui a été offerte par ses amis. Il y a eu une souscription, mais exactement. Et elle est emblématique, je pense. Je crois qu'il y a une gravure, c'est une pierre fine et enchâssée dans une monture d'or. Et elle a jugé que c'était un objet plus féminin. Et plus récemment encore, il y a un grand savant qui est Denis Köpfler, associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui a reçu le moulage d'une stèle du musée du Louvre. Donc là, on a vraiment un objet tout à fait savant et qui remplace l'épée. Et c'est une évolution très intéressante quand on voit toutes ces formes que les épées ont prises au fil du temps et de voir maintenant que certains académiciens choisissent des objets qui sont tout à fait différents.
Mireille Pastoureau, merci de nous avoir fait découvrir ces épées d'académiciens sur lesquelles il y avait en effet beaucoup d'histoires à raconter. L'épée d'académicien, ça va donc de l'uniforme à l'objet d'art. L'épée d'académicien, ça fait toujours rêver. Merci Mireille Pastoureau et à bientôt. Thank you.